tout d'abord, je présente ma famille, ma santé. Et si je remplace mon collègue aujourd'hui, c'est parce qu'il avait une sciatique assez dure, mais il pense être là mardi prochain pour vous parler, lui, de Kant et de la raison pure. Alors, Jean-Jacques Rousseau, vous avez entendu tout à l'heure ses terres du devin de village. Il était aussi musicien. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, vous vous rappelez, dans les rêveries du premier hors solitaire, il nous dit qu'il recopie de la musique pour gagner sa vie. Il improvise aussi, mais recopier de la musique, c'est devenu ce qui lui permet de vivre. On peut dire aussi que
voilà,
ça va.
Parlez.
Ouais. Je recommence tout.
Oui,
Oh non, vous avez entendu. Il a essayé de vous montrer en anthropologie comment on pouvait passer de l'état de nature à l'état de société. Et nous allons nous intéresser donc à ce problème de la politique. Alors, effectivement, une politique de la solitude, c'est un titre qui paraît un peu aberrant. En fait, c'est le titre d'un livre qu'a écrit le professeur de philosophie que mon épouse et moi-même avons eu quand on a fait nos études à la Sorbonne, Raymond Paulin. Donc, le titre n'est pas de moi, mais j'ai voulu vous le présenter pour vous montrer toute l'originalité de Rousseau. Mais Rousseau, comme tous les génies, a tendance évidemment à penser que les idées qu'il nous présente sont les siennes. Elles le sont parce qu'il a bien compris les idées des autres, il les discute, il les critique, mais c'est vrai qu'il a tendance un petit peu à négliger ses sources. Et on va d'abord commencer, si vous voulez bien, par voir les auteurs qui ont quand même influencé Jean-Jacques Rousseau. Alors, on va commencer, si vous voulez, par un premier problème. Est-ce que Rousseau n'a pas tiré ses idées de la Constitution de Genève ? Dans trois de ses ouvrages, les dialogues de Rousseau, juge de Jean-Jacques, ensuite, dans la sixième lettre de la montagne, et surtout dans la dédicace du discours sur l'inégalité, il nous dit « Certaines de mes idées viennent de la République de Genève ». Mais en fait, si on lit d'autres textes, il y a deux lettres, vous voyez, d'un monsieur Perdriau, où Jean-Jacques Rousseau, dans sa lettre, dit textuellement que finalement, il ne connaît pas bien les principes de la République de Genève. À Deluc, il ira même jusqu'à dire qu'il ne les a jamais étudiés. Donc, finalement, vous voyez que ce rapport avec la République de Genève est fortement discutable. D'autant qu'on a, de la même époque, un rapport où les conseillers de Genève nous disent que leur système est un système de gouvernement mixte, à la fois aristocratique et démocratique. Donc, c'est pas finalement la pensée du Rousseau, vous en doutez, qui lui est pour la démocratie, bien entendu. Alors, voyons maintenant les jurisconsultes qui ont véritablement influencé Jean-Jacques Rousseau. Alors, je vous ai mis, vous voyez, en face d'eux, ce que vous deviez retenir d'essentiel. Burlamaqui, il ne le cite pas très souvent, mais disons qu'il n'a pas une pensée originale. Il répète souvent ce qu'il a lu dans Grotius et dans Pufendorf. Donc c'est un vulgarisateur de bon niveau. Il y a deux points sur lesquels il est un peu original, c'est sur la balance des pouvoirs que Montesquieu, évidemment, lui-même, avait envisagé. Il n'y a que le pouvoir qui puisse arrêter le pouvoir. Mais Rousseau est contre. Par contre, c'est vrai qu'à un moment, il étudie le droit des princes en rapport avec la religion. Or, vous savez qu'il y a un chapitre assez curieux de Jean-Jacques Rousseau, l'avant-dernier chapitre du contrat social, de la religion civile, et qui semble, ce chapitre, être tout à fait en désaccord avec ce qu'il nous avait dit sur la religion naturelle. Il faudra donc, et ça sera la dernière partie de mon exposé, qu'on essaye de voir si cette religion civile est compatible avec la religion naturelle. Barbeyrac, il a beaucoup plus influencé Rousseau, d'abord par ses traductions. C'est grâce à Barbeyrac que Rousseau connaît Locke, et surtout Grotius et Pufendorf. Et puis aussi, ce qui est curieux chez Barbeyrac, c'est qu'il traduit, mais d'ailleurs pas toujours très fidèlement, mais il critique aussi ce qu'il traduit. Et c'est vrai que Rousseau a bénéficié, sûrement en particulier sur l'esclavage, même sur la propriété, des idées de Barbeyrac. Alors Grotius, ça c'est la bête noire de Jean-Jacques Rousseau. Pourtant, c'est certainement le plus génial des juristes consuls, le plus connu dans son ouvrage célèbre du droit de la guerre et du droit de la paix. Pourquoi est-ce qu'il en veut à Grotius ? Parce que Grotius estime que la souveraineté n'est pas toujours à trouver dans le peuple, n'est pas toujours à retrouver dans le peuple. Alors évidemment, Rousseau bondit et il essaiera de montrer, lui, l'inverse. Et en plus, si vous voulez, il en veut à Grotius parce que celui-ci a dédicacé son ouvrage, donc sur la paix et la guerre, à Louis XIII. Et Rousseau dit, regardez, hein, vous voyez, il fait déjà sa cour au prince. Donc, sous-entendu, attaque de la personne de Grotius. Par contre, il ne va pas attaquer le suivant, Pufendorf. Il le critique beaucoup, mais finalement, il est tributaire de sa pensée. Pourquoi ? Parce que critiquer quelqu'un, discuter ses idées, c'est aussi penser d'une certaine façon avec lui. Il a des idées, on n'est pas d'accord. Et justement, ce désaccord même fait qu'on va essayer de montrer quelle est sa propre pensée. Alors, j'ai découvert, vous voyez, une personne que je ne connaissais pas, Althusius, en faisant mes recherches, vous voyez, en étudiant des ouvrages, je vous indiquerai tout à l'heure lequel, que 150 ans avant Rousseau, Althusius, dans un ouvrage, Politica, avait donc, 150 ans avant Rousseau, estimé que l'exercice de la souveraineté ne pouvait être que dans le peuple, et que retirer au peuple cet exercice de la souveraineté, c'était finalement aboutir à la destruction de l'État. Il y a pourtant une différence fondamentale. Il y a une différence fondamentale avec Rousseau, c'est que pour Rousseau, nous allons le voir, le pacte social se fait entre des individus. Tandis que chez Althusius, c'est plutôt entre des groupes, par exemple économiques, des clans, des familles. Donc, ce n'est pas les individus qui vont contracter les uns avec les autres. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on est sûr que lui, Rousseau, connaissait ? Eh bien oui, dans la sixième lettre de la montagne, il parle d'Althusius et de son ouvrage Politica. Donc il l'a lu et il le connaît. Et là, vous voyez que l'influence est quand même importante, puisque c'est bien le peuple. On verra aussi Machiavel tout à l'heure, quand on va voir les philosophes, hein, Machiavel. Alors, passons aux philosophes. Jurieu, qui est un protestant et qui écrit ses lettres pastorales en vers 1686, il semble il a semblé, disons plutôt, à certains qu'au fond, il y avait déjà presque toutes les thèses de Jean-Jacques Rousseau dans ses lettres pastorales. En particulier, c'est vrai qu'il discute l'esclavage, la propriété même, et bien entendu, comme certains autres, il admet, avec beaucoup de protestants, qu'il faut résister effectivement aux princes, aux monarques. Seulement, il y a un ennui, c'est que Jurieu estime que le pacte que les contractants doivent faire est un pacte de soumission. Alors donc, ce n'est pas un démocrate. Il faut se soumettre. Ce n'est pas de la démocratie. Donc, vous voyez, son influence, c'est plutôt une influence qui fait que Rousseau va combattre cette idée. Alors, les grands philosophes, bien sûr, Platon, je ne vais pas y revenir, je vous en avais parlé beaucoup dans la métaphysique religieuse de Rousseau, je vous rappelle quand même, à part les idées innées, il a beaucoup aimé Platon, par exemple, pour lui, il y a bien un dualisme du corps et de l'esprit, le corps est une prison, la mort n'est pas un mal absolu. Et puis aussi, il prend, et nous allons revoir tout à l'heure ce problème, c'est celui de la religion. Pour Platon, la religion est un point important pour constituer l'État ou le réformer. Et on verra que Rousseau a une position à ce propos. Machiavel. Machiavel semble ne pas avoir toujours été bien compris par Jean-Jacques Rousseau. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau estime que César Borgia n'est pas un bon modèle et même un contre-modèle pour Jean-Jacques Rousseau. Eh bien non, en fait, si on voit le texte de Machiavel pour Le Prince, eh bien en fait, César Borgia est un modèle tout à fait convenable. Certes, il va finir par échouer, ayant commis une erreur tout à la fin de son épopée. Donc, il ne comprend pas toujours. Mais il prend quand même aussi à Machiavel l'amour du peuple que l'on trouve chez Machiavel, parce que si Machiavel a écrit Le Prince, il a écrit aussi un autre ouvrage, Les Décades sur Tite-Live, où on voit qu'il est républicain et qu'il est du côté du peuple, et aussi, alors on dit toujours pour Machiavel, c'est vrai, les hommes sont bêtes et méchants, mais on oublie que pour Machiavel, il y a quand même un remède. On peut remédier à cette bêtise et à cette méchanceté par l'éducation. Ah. Et je vous rappelle, j'aurais peut-être pu le faire déjà un peu avant, qu'en 1762, quand il publie le Contrat social, il publie un autre ouvrage en même temps, qui est l'Émile, son ouvrage sur l'éducation. Donc ça, vous voyez, Machiavel a pu l'inspirer. Quant à Montesquieu, il l'admire énormément. Et il l'admire tellement qu'il ne veut pas se mesurer à lui. Il laisse à Montesquieu tout ce qui est de l'ordre du droit positif et de la comparaison entre les différents droits positifs des pays, il ne s'intéresse, lui, Jean-Jacques Rousseau, qu'au droit politique, donc à la philosophie, si vous voulez, du droit. Quant à Locke, qu'il connaît par Barbeyrac, il lui apprend l'amour de la liberté. Ça, c'est sûr que, comme notre collègue qui était venu nous parler de Locke, vous avez montré que dans ses œuvres, le gouvernement civil, l'aide sur la tolérance, Locke milite sans arrêt pour la liberté. Et il est un de ceux, vous en doutez, qui est à l'origine de la glorieuse révolution anglaise qui chasse le catholique Jacques II d'Angleterre. Donc voilà ce que Locke apprend à Jean-Jacques Rousseau, d'aimer la liberté. Et on verra la liberté par-dessus tout. Hobbes. C'est vrai qu'au début, on a l'impression que Jean-Jacques Rousseau critique Hobbes. Il ne le comprend pas toujours très bien, d'ailleurs. Il commet, comme un peu tout le monde, les mêmes contresens sur Hobbes. Mais petit à petit, en lisant, toujours pareil, quand on lit un philosophe, hein, qu'on l'approfondit, eh bien, Jean-Jacques Rousseau va se sentir de plus en plus proche de lui, sans partager, nous le verrons, évidemment, toutes ses idées. On va passer, si vous voulez. Donc, maintenant, à cette idée. Comme, vous voyez, il va de plus en plus se tourner vers Hobbes, et prendre un certain nombre d'idées à Hobbes, en particulier l'importance de l'État, Locke est trop individualiste, comme l'a bien remarqué d'ailleurs celui qui l'a étudié, Vaughan, un historien de la philosophie anglaise. Locke est individualiste. Or, Rousseau ne l'est pas. Rousseau, comme Hobbes, c'est l'État qui compte essentiellement. Alors, évidemment, on se demande, est-ce que Rousseau ne nous conduit pas à un État totalitaire? Et en particulier, Benjamin Constant et d'autres soulignent la fameuse phrase « On les forcera à être libres ». Alors, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Rousseau nous parle de démocratie et il a de telles expressions. Donc, le contrat social va-t-il nous conduire au totalitarisme? Alors, d'abord, effectivement, quand on étudie le contrat social, mais aussi l'article Économie politique que Jean-Jacques Rousseau a écrit dans l'encyclopédie, on s'aperçoit qu'effectivement, surtout dans l'article Économie politique, qu'il compare finalement l'État à un être vivant. Or, vous savez que les totalitarismes du XXe siècle, le fascisme italien, le nazisme, mais aussi, dans une autre perspective, mais un peu dans le même genre, le marxisme ou le communisme, si vous voulez, quand ils parlent de l'État, finalement, usent et abusent de cette comparaison, et on dit, ben voilà, hein, c'est la faute à Rousseau. Alors, qu'en est-il exactement? Dans l'article Économie politique, c'est vrai qu'il fait une comparaison minutieuse, précise, entre l'État et l'être vivant. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Que finalement, cette analogie, or que finalement, ça va à la rigueur, dit-il. C'est intéressant, mais ça ne va pas plus loin. Quant au contrat social, si vous lisez le contrat social, finalement, il y a deux passages où Rousseau, effectivement, esquisse, je dirais même à ce moment-là, la comparaison, et où Rousseau, finalement, n'en fait pas son idée directrice. C'est finalement, bon, une analogie que je peux utiliser, mais ce n'est pas le fond de sa pensée. Donc, si vous voulez, nous avons affaire à une perspective radicalement différente entre Rousseau et, en particulier, nos totalitarismes du XXe siècle. Alors, voyons maintenant l'origine et les fondements du contrat social. Et tout d'abord, le fondement, parce que c'est le problème philosophique le plus intéressant. Alors, peut-on fonder le contrat social dans la famille? C'était l'idée d'un Anglais, en particulier, si vous voulez, Filmer, qui estimait finalement que, de même que le père de famille a une autorité naturelle sur ses enfants, il les nourrit, il les éduque, il leur dit ce qui est bon pour eux et mauvais pour eux, eh bien de même, le monarque, le roi, le prince, finalement, s'occupe naturellement de ceux qui sont sous son ordre, plutôt sous ses ordres. Seulement, vous voyez que Rousseau n'a pas de peine à montrer que, en fait, c'est pas du tout la même chose. D'abord parce que, dans la famille, le père de famille, il aime ses enfants. Le prince aime-t-il ses sujets? Il s'en sert pour faire des guerres extérieures. Il y a la raison d'État qui fait que si vraiment un individu est estimé nuisible à l'État, on peut l'éliminer. Ce n'est pas de l'amour. Alors on pourrait dire, oui, mais d'une certaine façon, Rousseau a dit que la famille était une société naturelle. Oui, mais c'est la seule. pour Rousseau, c'est la seule. Ça veut dire que n'importe quel état civil n'est pas une société naturelle. Là, il a la même idée que Hobbes. L'état civil, c'est quelque chose d'artificiel. C'est l'homme de l'homme, hein, comme vous l'a dit, montré Pierre Guénantia, hein, le passage de l'état de nature à l'état civil. Donc, on écarte finalement la famille. Le droit du plus fort, fondement dans la force. Spinoza, vous vous rappelez peut-être, estime qu'effectivement, on peut tirer le droit finalement de la force. C'était, vous vous rappelez peut-être, je vous rappelle l'essentiel, tout simplement parce que toute cette nature, et en particulier toute cette nature humaine, et les hommes qui la composent, ne sont en fait que des expressions de la toute-puissance divine. Et que de même que le lion a droit de tuer finalement la gazelle, eh bien, les hommes les plus forts peuvent l'emporter sur les plus faibles, comme les gros poissons mangent les petits. Bon. Eh bien, pour Rousseau, évidemment, il ne peut en être question. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, là, comme Hobbes le pense, cette force, elle est instable. Il y a l'âge. Oui, quand je suis en pleine vigueur de moi-même, ça va, je peux être plus fort que les autres et m'imposer aux autres. Seulement, je vais vieillir. Et puis, il y a la maladie. Et puis, deux ou trois personnes faibles peuvent s'unir contre un plus fort. Donc, vous voyez, si j'admets qu'il y a un droit du plus fort, je n'ai pas finalement quelque chose de stable, de durable. Incohérence. Ben oui, parce que si je parle de droit, en fait, je vois une perspective morale, spirituelle. Alors que la force, qu'est-ce que c'est ? C'est une puissance uniquement physique. Alors il y avait bien à l'époque, et c'était important, vous en doutez, la fameuse phrase de saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, si je me souviens bien, au verset 1, oui, c'est ça, « Toute autorité vient de Dieu et nous devons nous soumettre à ses autorités. » Alors d'abord, j'ai été regarder dans le texte grec, du Nouveau Testament, le terme employé, c'est « ex ousias », ça veut dire « ceux qui planent au-dessus »,« ceux qui sont au-dessus ». Mais comme deuxième sens, sens dérivé, la magistrature. Donc, vous voyez, quand saint Paul parle des autorités, c'est peut-être pas de n'importe quelle autorité qu'il parle, mais d'une autorité plutôt légitime, établie, plus ou moins acceptée. Toujours est-il que, par contre, saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, va lui estimer qu'on peut résister au prince, parce que, vous vous rappelez, la vox populi, c'est finalement la vox dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Et même saint Thomas va plus loin, si le prince, le monarque, devient tyran, et en particulier, Thomas pense évidemment à la religion, non seulement on peut lui résister, mais le tuer. C'est le thème du tyrannicide. Hein ? J'ai le droit de tuer le tyran. Rousseau ne va pas du tout prendre cette perspective et se référer à saint Thomas. Le connaît-il ou pas ? Peu importe. Lui, il va se servir d'une comparaison. Rousseau, comme je vous l'ai montré dans mon propos sur sa métaphysique religieuse, croit à la providence divine. Or, dit Rousseau, regardez, si la providence divine existe, elle est à l'origine de tout et des maladies. Or, tout le monde va voir le médecin, y compris les prêtres, y compris les religieux. Quand je suis malade, je vais voir le médecin. Donc, même si c'est la providence divine qui donne les maladies, rien ne m'empêche, moi, d'essayer de me guérir. De la même façon, certes, c'est tel roi exerçant un pouvoir absolu comme Louis XIV, par exemple, si vous voulez, use de cette force, qu'est-ce qui m'empêche, moi, si je ne suis pas d'accord, d'écrire le contrat social, d'essayer de réformer effectivement l'État et de proposer un État civil meilleur. Vous voyez l'habileté de Jean-Jacques Rousseau. Passons à l'esclavage, ça c'est la grande idée de Grotius. Grotius dit, que finalement, le gouvernement n'est pas toujours à l'avantage des gouvernés. La preuve, dit-il, l'esclavage. Alors Rousseau critique d'abord la méthode. Vous voyez ce que fait Grotius, dit Rousseau ? Il part du fait pour aller au droit. Mais qui nous dit que le fait est producteur de droit ? Rien du tout. Donc, il critique la méthode de Grotius. Mais aussi, finalement, à propos de cet esclavage, Rousseau n'a pas de peine à montrer que, si c'est vrai historiquement, ça peut aussi se contester. Et ça a été contesté, entre autres par le stoïcisme, mais aussi par le christianisme. Donc, finalement, faire de l'esclavage un argument en faveur de la soumission, en faveur de la domination, ça ne vaut pas. Et la preuve aussi, dit Rousseau, les hommes sont nés libres et égaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on naît, effectivement, il n'y en a pas un qui a une couronne sur la tête, il n'y en a pas un, si vous voulez, qui aurait les armes à la main. Quand on est tous libres et égaux. Et c'est voulu, pour Rousseau, bien sûr, par la providence divine, cette naissance des hommes libres et égaux. Alors, on va maintenant s'intéresser au pacte de soumission des jurisconsultes, pacte énoncé par Grotius et surtout par Pufendorf. Commençons par un pacte de soumission volontaire. Grotius en particulier dit à Rome, et c'est vrai, il y a des gens qui, tombés dans la plus grave pauvreté, étaient obligés, s'ils voulaient survivre, de se vendre. Et vous voyez, dit Grotius, si un homme peut faire cela, pourquoi un peuple ne pourrait-il pas, finalement, se vendre à un monarque, à un roi ? Si c'est valable pour un homme, pourquoi ça ne serait pas valable pour un peuple ? Alors vous en doutez, Rousseau n'est pas du tout d'accord. Et Rousseau montre que dans ce cas-là, c'est finalement un marché de dupes. Il faut être fou pour accepter un tel contrat, puisque finalement, il est pratiquement, totalement au désavantage de ceux qui se soumettent. Et en particulier, il n'a pas de peine à montrer que quand on est esclave, au moins le maître, il nourrit son esclave s'il ne veut pas qu'il meure et continuer à utiliser sa force de travail, par exemple. Par contre, qui c'est qui... Le roi ne nourrit pas son peuple, il est au contraire nourri par lui et par les impôts que le peuple verse aux fonctionnaires du roi. Involontaire, les prisonniers de guerre, ça semble plus légitime parce qu'il semble, à première vue, que les deux parties y gagnent. L'un, il gagne la vie, l'autre, gagne la force, encore une fois, de travail de celui qui va devenir son esclave. Seulement, Rousseau conteste le droit qu'aurait le vainqueur de tuer le vaincu. Pourquoi ? Au nom de quoi Rousseau refuse-t-il de reconnaître ce droit ? En tout cas, dans la réalité, c'est vrai que quelquefois ça se passait. On leur donnait à choisir, la mort ou la servitude. Mais qu'est-ce qui pourrait finalement justifier cela ? En particulier, Rousseau montre que cet état n'existait pas dans l'état de nature. Les hommes étant isolés, vous rappelez ce que vous a dit M. Guénantiard, un des autres, dans une nature généreuse, n'avaient pas besoin des autres, et surtout n'étaient pas en guerre les uns avec les autres. Même quand il y avait une rencontre, un plus fort pouvait voler la nourriture du plus faible, mais celui-ci n'avait aucune peine à aller ailleurs pour se nourrir. Donc, finalement, dans l'état de nature, les hommes ne sont pas ennemis. Maintenant, dans l'état civil, c'est les États qui se font la guerre. Et, si vous voulez, on a le droit de tuer effectivement son ennemi quand il est armé, mais dès qu'il est désarmé, qu'il n'a plus d'armes, on ne voit pas pourquoi on le tuerait. Les hommes ne sont naturellement pas ennemis les uns des autres. Donc, on va passer, M. Fournier, si vous voulez. Donc, nous écartons le pacte de soumission comme nous avons écarté l'esclavage et la famille. Le seul pacte valable ne peut être qu'un pacte d'association, c'est-à-dire décidé volontairement par les individus. Et il faut donc remonter à une première convention, c'est-à-dire à un moment où, effectivement, on va passer de l'état de nature à l'état de société. Et c'est pour ça que on va, cette fois, pour un instant, oublier le fondement et voir l'origine. C'est-à-dire, le problème, cette fois, non plus du droit, mais du fait, qu'est-ce qui a poussé les hommes à se réunir ? Alors, il y a un aspect providentiel, du volcanisme, une augmentation de la population, ont fait que les hommes sont devenus plus nombreux et se sont rassemblés les uns avec les autres. Et c'est à ce moment-là, d'après Rousseau, que les hommes vont entrer en lutte les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce que cette réunion des hommes entre eux produit plus de biens, un travail plus efficace, plus fécond, des inventions vont être faites en métallurgie, dans l'agriculture, et bien entendu, il y a des richesses qui vont apparaître, et ça va être la tendance, évidemment, que certains s'emparent de ces richesses au détriment des autres. Donc l'origine du pacte social, c'est finalement que les hommes veulent essayer d'être libres, de rester libres, qu'on n'attende pas à leur vie ni à leur bien. Voilà, si vous voulez, l'intérêt, si vous voulez, l'utilité du pacte social, son origine. Revenons donc au problème philosophique fondamental du fondement. Il va falloir que nous trouvions une forme d'État qui va préserver à la fois les biens, la liberté et la personne des contractants. De façon à ce que, s'unissant à tous, ils gardent, ils conservent quand même, et on va voir comment, leur liberté. Sinon, quel intérêt aurais-je à faire ce pacte ? Alors, ce fondement, quel est-il ? Ce fondement, ça consiste finalement à s'unir à tous les autres, à aliéner tous ces droits qu'on tenait de la nature, c'est-à-dire aliéner, c'est-à-dire s'en séparer, pour les récupérer ensuite, grâce à l'état civil, de façon plus sûre, de façon plus valable. Parce que tout seul, comme on l'a vu, on pouvait quelquefois, oui, conserver sa liberté, sa vie, mais on pouvait aussi très bien la perdre et devenir l'esclave de quelqu'un. Mais pour que ce soit valable, qui va posséder, qui va avoir cette souveraineté, qui va bénéficier de cette souveraineté ? Eh bien, ça ne peut être, dit Rousseau, que ceux qui contractent, que ceux qui ont accepté librement d'adhérer à cette association et par là même de constituer une volonté générale qui, au départ, on verra qu'il y a des nuances, elle doit être la volonté de tous. Car le pacte, voyez, doit être unanime. Il faut que tous les contractants soient d'accord pour abandonner leurs droits naturels et récupérer après, ensuite, des droits civils. Donc, vous avez bien compris, pour Rousseau, il n'y a que le peuple assemblé qui puisse disposer de la souveraineté, c'est-à-dire du pouvoir de faire les lois. Car pour Rousseau, c'est par les lois que finalement, cette souveraineté va s'exercer. Seulement, il y a un problème. Pour justement cette loi, comme nous l'avons vu, il faut qu'elle reste ma loi. Mais comment peut-elle être ma loi si en particulier j'ai voté contre ? Eh bien, vous voyez que ça, c'est quelque chose qui doit faire partie du pacte fondamental, c'est-à-dire que j'accepte finalement que la loi votée par, cette fois, non plus une unanimité, il n'y aura jamais unanimité, par la majorité, décide finalement de ce que doit être la loi. La loi est faite donc par les contractants, cette fois à la pluralité des voix, à la majorité simple, dit Rousseau, pour les lois ordinaires, par exemple pour le budget, hein, les impôts. Par contre, pour les lois constitutionnelles, où nous dirions, tenez maintenant, des lois sur la vie en commun, par exemple mariage pour tous, Rousseau exige cette fois les deux tiers. Pourquoi ? Eh bien, pour éviter la démagogie, pour éviter d'être trop vite, de changer trop vite les institutions. D'autant que ces institutions, on va le voir tout à l'heure, ont été faites par un législateur, un grand homme. Donc la souveraineté appartient bien seule au peuple. Par contre, la forme du gouvernement monarchique, aristocratique, démocratique, appartient elle aussi à un vote et peut changer elle aussi au cours du temps. Donc, rien de plus antidémocratique pour Rousseau que de dire que des lois seraient intangibles. Comme on a quelquefois l'idée pour Rousseau, ça non, ça n'a pas de sens. L'exercice de la souveraineté demeure et demeurera toujours dans le peuple, et c'est la majorité, vous voyez, des suffrages qui décide. Alors, valeurs et limites de la volonté générale. La volonté générale peut-elle errer ? Eh bien, Rousseau nous dit non. La volonté générale est toujours droite. Et je ne sais pas si vous avez entendu quelquefois notre Cohn-Bendit national dire, et assez récemment en particulier, eh bien que non, la volonté générale n'avait pas toujours raison, ne pouvait pas toujours être droite. La preuve, le nazisme, qui aurait été d'après lui démocratiquement élu. C'est un peu discutable, vous savez. Pour avoir la majorité, je pense que j'étais pas là ce jour-là, Pierre a dû vous le dire, il a fallu que le centre-droit s'allie aux nazis pour que Hitler devienne chancelier. Alors évidemment, une fois qu'il a été chancelier, avec la propagande, l'élimination d'un certain nombre de personnes dans les camps ou physiquement, il en a été autrement. Bon, mais même, admettons, pourquoi Rousseau estime finalement que la volonté générale est toujours droite ? Vous verrez, il y aura quand même une exception. Ben d'abord parce que cette volonté générale, elle vient finalement de cet instinct de conservation qui est bon, qui fait que, vous vous rappelez, ma conscience, instinct divin, juge immédiatement ce qui est bien et ce qui est mal. Immédiatement, je sais ce qui est bien et ce qui est mal. Deuxième argument, finalement, ces lois, elles sont faites par tous. Pourquoi ? Pour assurer, finalement, notre bonheur. On ne veut pas notre malheur. Donc voilà pourquoi elle doit être droite. Mais surtout, surtout, le dernier argument, c'est le plus fort, la volonté est droite parce qu'elle est rationnelle, parce qu'elle vient de la raison. Les hommes assemblés discutent, échangent et raisonnent. Alors l'exception, vous avez compris, eh bien c'est quand les hommes, au lieu d'écouter leur raison, écoutent en particulier leur passion, se laissent aller justement au discours des démagogues, que cette fois, la volonté générale n'a plus cette rectitude qu'elle devrait finalement avoir. Donc oui, elle peut errer, C'est pour ça qu'il faut faire attention, oui, aux démagogues. C'est pour ça qu'il faut réfléchir, raisonner, échanger entre nous. À ce propos, je ne sais pas si vous vous rappelez, le référendum sur le traité de Lisbonne avait été intéressant. Les gens en avaient discuté, hein, même dans les, sur les lieux de travail, je me souviens. Hein, il y avait eu un échange, justement, très important à propos de ce référendum. Bon. Mais nous avons surtout parlé de liberté. Rousseau reconnaît aussi que, c'est vrai, nous aliénons tous nos biens que nous tenons, si vous voulez, de la nature, en particulier du fait que nous avons été le premier occupant d'un endroit, nous les aliénons à la société entièrement. Mais, vous vous en doutez, grâce à cette aliénation, nous les retrouvons, la société nous rend nos biens et nous les assure. Et à ce moment-là, la propriété devient légitime. Parce que finalement, le premier occupant, comment sait-on vraiment quel est le premier occupant, hein, même en histoire, vous avez vu, si on remonte très loin, hein, qui était le premier occupant de la France, hein, bah, c'est pas facile justement à déterminer. Mais, bien entendu, pour Rousseau, cette possession des biens ne doit être ni trop importante, ni trop faible. Je dois pouvoir au moins vivre de ma propriété. C'est ce que nous verrons d'ailleurs dans l'avant-dernière partie que je vous proposerai de réfléchir sur égalité et inégalité chez Rousseau. Et l'ensemble d'ailleurs de ces propriétés des contractants forme ce que Rousseau appelle le territoire national. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire national? C'est l'ensemble des propriétés de ceux qui ont contracté, qui ont été d'accord pour s'unir entre eux. Alors vous allez me dire, est-ce que ça va jusqu'au droit de vie et de mort? Parce que, par exemple, la peine de mort est légitime. Bien souvent, quand on demandait, je pense qu'Arlette sera d'accord, à nos élèves, ce qu'ils pensaient de Rousseau, ils disaient « Oh non, non, Rousseau n'est pas pour la peine de mort, c'est pas possible. » Eh bien, si, si. Hein, Rousseau est pour la peine de mort, et en plus, il va la justifier. Mais ça pose un problème, parce que, j'avais dit, nous aliénons nos droits. Mais vous savez qu'à cette époque, au moins, on n'admettait pas le suicide. Vous vous rappelez, même les Anglais mettaient en prison les suicidés qui s'étaient ratés. Hein ? C'est-à-dire que, non seulement ils avaient raté leur suicide, mais ils allaient pour un certain temps en prison. Bon. Donc, comment puis-je transmettre à l'État un droit que je ne possède pas ? Vous voyez, là, il y a bien un problème. Alors Rousseau dit qu'il lui semble qu'il n'y a pas de difficulté. Pourquoi ? Parce que, dit-il, finalement, il n'y a pas de difficulté, d'une certaine façon, parce que la fin justifie les moyens. Alors, vous allez peut-être vous récrier, on pourra en discuter, si vous voulez, un peu tout à l'heure. Pour Rousseau, la fin justifie les moyens. D'une certaine façon, c'est vrai, c'est la fin qui détermine les moyens. Si vous voulez effacer un tableau, ça ne sert à rien de sauter en l'air, d'appuyer sur un bouton pour mettre ou de l'électricité ou la supprimer. Ce qu'il faut, c'est avoir une éponge et un chiffon. Donc, vous voyez, pour Rousseau, la fin justifie les moyens. Et donc, pour rester en vie, ben, cela suppose un certain nombre de pertes. En d'autres termes, je ne suis resté en vie que parce que les autres m'ont protégé jusqu'à maintenant. Dans ma famille, quand il y a eu une guerre extérieure, bon, mais forcément, il y a toujours des pertes. Donc, du point de vue service militaire, ça ne pose pas de problème pour Rousseau. Alors vous me direz, mais la peine de mort pour les assassins, c'est la même chose, dit Rousseau. J'accepte de mourir si je deviens assassin pour conserver ma vie par rapport à d'éventuels assassins. Vous voyez ? J'accepte de mourir si je deviens un assassin pour en fait conserver ma vie face à d'éventuels assassins. Bon, on pourra en discuter aussi, hein, si vous voulez. Alors, maintenant, nous allons passer aux différents pouvoirs pour les analyser. Alors, la fonction du législateur, il faut que je vois aussi où j'en suis pour l'heure. Oui, 15h10, ouais, je suis un peu en retard comme d'habitude. Alors, la fonction du législateur, ce sont les lois constitutionnelles. Et là, c'est vrai que Rousseau est dans la tradition, la position aussi bien de Platon, de Machiavel. Le législateur, c'est celui qui produit une constitution, c'est-à-dire les lois fondamentales d'un État, en particulier la répartition des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires. Donc sur ce point, il est d'accord. Et vous voyez que le législateur, pour Rousseau, n'est pas celui qui dispose du pouvoir législatif. Encore une fois, pour Rousseau, c'est le peuple qui dispose du pouvoir législatif. Alors, que doit faire le législateur? Alors, pour ces lois fondamentales, il faut que ce législateur, finalement, soit un éducateur. Il faut que, dans les lois qu'il va, poser, proposer, il faut effectivement faire une place énorme à l'éducation. Nous avons vu que c'était en particulier la position aussi bien de Platon que de Machiavel. Donc, le législateur, c'est celui qui va éclairer le peuple, qui va l'amener grâce à ces lois constitutionnelles, qui va amener le peuple, vous voyez, à s'éclairer. Il va être là, en quelque sorte, la lumière du peuple, celui qui va l'amener petit à petit à abandonner ses passions pour la raison. Et cela amène effectivement une dénaturation de l'homme. Pourquoi dénaturation de l'homme? Parce que, effectivement, je ne vais plus être quelqu'un d'isolé qui ne voit que son point de vue, je vais justement essayer d'adopter ce niveau de la volonté générale. Donc, comme Pierre Guenancia vous l'a dit, on va passer de l'homme naturel à l'homme artificiel de l'état civil, nous allons passer à l'homme de l'homme, comme le dit lui-même Rousseau, l'homme fait, créé par l'homme. Et là, il est d'accord avec Hobbes, cet homme dénaturé est artificiel. Alors, pour arriver à bien faire ses lois, il va falloir que le législateur joue sur deux pôles. Tout d'abord, les sentiments. Les sentiments sont importants. Ben oui, Rousseau est le père du romantisme, et évidemment, pour lui, les sentiments sont quelque chose d'essentiel. En particulier, comment on peut faire accepter aux gens de perdre la vie pour la patrie, sinon parce que cet amour de la patrie l'emportera sur leur intérêt personnel. Deuxième chose, la religion. Comme Platon, Rousseau estime que la religion joue un rôle important, et en particulier là pour le fait de donner sa vie. Si j'admets avec la religion que la mort n'est pas un anéantissement, mais l'accès à une autre vie, si j'admets l'immortalité de l'âme en quelque sorte, vous voyez que je donnerais plus facilement peut-être ma vie que si je crois au néant, à l'anéantissement, à la mort. C'est pour ça que Rousseau, nous verrons tout à l'heure, ira même jusqu'à demander la mort pour les athées. Parce que l'athée, vous voyez, celui qui ne croit pas en Dieu, donc en la vie éternelle, ne peut être, d'après Rousseau, qu'antisocial. Je pourrais en rediscuter avec vous tout à l'heure, si vous voulez. Mais il faut que j'avance. Le pouvoir, donc, maintenant, législatif, le pouvoir souverain par excellence. Alors, pour mieux comprendre, je vais, puisque Hobbes tient une telle place, vous rappeler rapidement le point de vue de Hobbes, et ensuite les objections que Rousseau fait à la pensée de Hobbes, et finalement, après, à sa conception du pouvoir souverain. Alors, pour Hobbes, les hommes, vous rappelez, vivent dans une guerre perpétuelle. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont égaux, et que, de ce fait, le plus fort n'est jamais le plus fort, et que la guerre, d'après lui, qui se trouve dans cet état de nature, n'aura jamais de fin. La seule façon de procéder, c'est de faire comprendre aux hommes, c'est la première loi de nature, c'est de faire comprendre aux hommes qu'il faut qu'ils abandonnent finalement leur point de vue, qu'ils abandonnent leurs droits individuels, qu'ils y renoncent pour assurer donc leur vie et pour assurer aussi les biens qu'ils possèdent. Et pour cela, il faut que le peuple passe d'individus séparés en guerre les uns contre les autres, donc d'une multitude d'individus, à un peuple. Et comment opérer ce passage? Eh bien, ça ne peut se faire que par une personne juridique. Et pour Hobbes, ça peut être soit un homme, soit une assemblée minoritaire, une oligarchie militaire, par exemple, ou par une assemblée majoritaire, c'est-à-dire cette fois une démocratie, c'est-à-dire une assemblée où tous les hommes peuvent participer et voter. Et donc, soit l'homme, soit l'assemblée vont en quelque sorte réaliser par leur unité cette, finalement, capacité de devenir personne juridique. C'est-à-dire un homme artificiel, ce grand Léviathan, vous voyez, qui est grand, pourquoi? Non pas tellement à cause de l'homme ou de l'assemblée, mais parce que ce grand Léviathan, comme c'était fait dans le frontispice de la première édition, on voyait que le grand Léviathan, ce monstre, était fait de des individus, de tous ceux qui participaient, voyez, à l'état civil. Et ils avaient une force incroyable, parce que tout unis dans la personne de l'homme ou de l'assemblée. Autorisation, thèse subtile de Hobbes, qui consistait à dire, finalement, j'abandonne, finalement, mon droit de me gouverner par moi-même, et j'autorise un homme ou une assemblée, si, et seulement si, toi aussi, tu abandonnes ton droit de te gouverner toi-même et tu autorises cet homme ou cette assemblée dans toutes ses actions, de la même façon. C'est ce qu'on appelle le tiers exclu. Donc, voyez, c'est ni un pacte vraiment de soumission, ni totalement d'association. Il y a un homme ou l'assemblée qui est exclue, d'où l'expression « tiers exclu ». Et ainsi, vous en doutez, personne ne peut protester. Je ne peux pas protester puisque j'ai autorisé cet homme ou cette assemblée. Donc j'obéis finalement aux lois. Et le pouvoir, vous voyez, n'est pas arbitraire comme il pourrait l'être chez des brigands dans la mafia, parce qu'il y a des lois. Alors, représentation, c'est sur la représentation surtout qu'on va voir la différence avec Rousseau, entre Hobbes et Rousseau. Cette représentation pour Hobbes est légitime parce que, dit-il, les hommes ont de grosses lunettes pour le présent et de toutes petites lunettes pour l'avenir. Ils voient tout à fait leurs intérêts actuels, présents, en particulier économiques, et ne voient pas à moyen ni a fortiori à long terme, en particulier sur, tenez, si on prend l'exemple anglais, puisque Hobbes était anglais, les Anglais n'étaient pas très contents quand la grande Élisabeth les ponctionnait, prenait pas mal d'impôts. Seulement, le jour où la grande armada arrive près des côtes anglaises, là, les Anglais sont contents que la reine ait cette flotte, il y a des pirates aussi dans la flotte anglaise, mais enfin, cette flotte pour, justement, combattre, finalement, les Espagnols et ne pas être sous le joug de Philippe II d'Espagne. Alors, on pourrait se dire, mais alors pourquoi Rousseau objecte? C'est pas si mal, finalement, ce que nous dit Hobbes. Oui, oui, mais on va le voir, il y a quand même des remarques à faire, des objections à faire. Les Anglais, dit Rousseau, ne sont libres qu'au moment des élections. Parce que, finalement, après, qui décide des lois? C'est pas eux, c'est finalement leurs représentants. Les Anglais, aussitôt après les élections, redeviennent des mineurs, ne sont plus majeurs, puisque ce ne sont pas eux, finalement, qui décident. Donc voilà ce que Rousseau, évidemment, n'admet pas, c'est qu'on soit sous la domination, finalement, des représentants. Et en fait, pour Rousseau, vous voyez bien que cette assemblée soi-disant majoritaire et démocratique à la Hobbes n'est en fait qu'une oligarchie déguisée. Puisque ce sont les représentants qui vont, en leur âme et conscience, décider. Et pour Rousseau, au contraire, comme on va le voir, il faut tout à l'heure qu'il y ait une logique de participation au pouvoir. Bon. Et aussi, par leur pouvoir économique, ces gens qu'on élit, regardez, c'est facile à voir, eh bien, c'est des gens qui ont richesse. D'abord, il faut de la richesse pour se faire élire, même acheter des voix. Hein. On le savait, les Anglais achetaient les voix de ceux qui votaient. Il faut effectivement de l'argent. Et de ce fait, vous voyez, qu'est-ce qui se passe bien souvent ? Ben, c'est humain. Les représentants, au lieu d'agir au nom de la volonté générale, vont plutôt agir pour des lobbies, ou pour pire, des intérêts de classe, et même carrément leurs propres intérêts. Hein. Ce qu'on ne supporte d'ailleurs, nous, de moins en moins. Hein. De moins en moins. Bon. D'ailleurs, regardez, par des revendications après l'argent des Gilets jaunes, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Que les gens participent davantage par un vote... au pouvoir. Oui, seulement le référendum, vous vous rappelez, chez nous, j'ouvre une petite parenthèse, avait été annulé. Pourtant, il y a eu 55% contre le traité de Lisbonne, vous vous rappelez, 45% de pour. Mais comme dans notre Constitution, le Parlement, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat, hein, pouvaient, à une certaine majorité, l'effacer, c'est ce qui s'est produit. Mais là encore, vous voyez, ben, ce n'est pas le peuple qui était souverain. Alors, la démocratie rousseauiste. Rousseau n'est pas, si vous voulez, un nostalgique du passé. Certes, il admire beaucoup Rome, dans une moindre mesure Athènes, mais finalement, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Les intentions profondes de Rousseau, c'est d'une façon ou d'une autre... que le peuple soit le souverain et le reste, que jamais cette souveraineté ne lui soit d'une façon ou d'une autre arrachée, comme, hein, on l'a vu là, par cette constitution. Donc logique de participation au pouvoir. Pourquoi ? Le peuple qui au départ n'était rien, grâce au législateur est devenu tout, puisqu'il possède le pouvoir souverain, eh bien, il ne doit pas l'abandonner. Il faut, d'une façon ou d'une autre, lui laisser. C'est lui qui doit avoir, en dernière analyse, le pouvoir. Regardez, c'est maintenant ce qui se passe en Angleterre. Alors que, du fait de Locke, de Hobbes, des grands philosophes anglais, ils étaient plutôt pour la représentation à la Hobbes, vous avez vu avec le Brexit ? Pour la première fois, je crois, à ne pas me tromper, il y a eu un référendum. De ce fait, vous avez vu d'ailleurs, pendant un moment, le Parlement anglais n'a pas voulu, il ne voulait pas céder, et en particulier ne voulait pas se présenter devant le peuple. D'autant qu'il y avait une grande partie des conservateurs qui étaient passés de l'autre côté, qui étaient contre, finalement, le Brexit. Avec des élections, ben, vous avez vu, le peuple a tranché. Eh bien, pour Rousseau, c'est ainsi que les choses doivent se passer. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord, hein, mais voilà la position de Rousseau. Alors, conditions, quand même, il y a des conditions, bien entendu. Il faut que, pour les grands pays qui ne peuvent pas faire qu'on soit tout le temps assemblés ou qu'il y ait tout le temps des référendums, encore que j'ai vu qu'aux États-Unis, il y a souvent plusieurs référendums pour une élection présidentielle. Oui, exemple, la Californie.
150 propositions de loi à chaque...
Vous vous rendez compte ? Voilà. Alors, durée régulière, limitée. Chez nous, c'est 5 ans. Chez eux, la Chambre des représentants qui veut les impôts, c'est 2 ans.
Oui, 2 ans.
2 ans. Hein. Le Sénat, bon, 6 ans. Mais disons, ceux qui votent les impôts, les représentants, c'est 2 ans. Ensuite, autre condition pour Rousseau, pas de cumul des mandats. Mais voyez qu'on y arrive petit à petit quand même. Hein. Chez nous, on a bien essayé d'éliminer ce cumul des mandats. Est-ce une bonne chose ou pas ? C'est une autre question. Voilà. On peut passer maintenant à l'exécutif, le prince. Le prince, si vous voulez, dans le vocabulaire de Rousseau, c'est le gouvernement, l'exécutif, ce que nous appelons le gouvernement, l'exécutif. Alors, refus de la démocratie directe athénienne. Ça peut nous sembler bizarre que Rousseau, qui était démocrate pour la souveraineté, le législatif, ne le soit pas. Alors, tout simplement, il s'est aperçu que la démocratie athénienne, surtout sous l'effet des démagogues, confondait le droit et le fait. Je vais vous donner un exemple rapide. Lors d'une bataille navale, les amiraux, voyant l'anéantissement de la flotte ennemie possible, foncent dessus et l'écrasent. Eh oui, seulement ils oublient les morts, leurs propres morts, qui évidemment ont coulé pendant qu'ils allaient anéantir l'ennemi. Quand ils rentrent chez eux, les démagogues auprès du peuple font réagir, ce qui fait que le peuple trahit sa propre constitution, c'est-à-dire estime que tous les amiraux doivent être jugés ensemble, alors que c'était une loi fondamentale qu'on ne pouvait juger les gens que seul à seul, hein, pas en groupe. Et bien là, le peuple, vous voyez, l'a décidé. Il y en a qu'un qui s'oppose, c'est Socrate. Socrate dit, vous n'avez pas le droit. C'est pas dans la Constitution. Alors on dit, si tu continues à nous embêter, tu vas y passer toi-même. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent tous les amiraux, enfin ceux qui sont restés, il y en a d'autres qui avaient compris et qui s'étaient enfuis. Hein. Tous ceux qui sont restés sont en même temps condamnés à mort. Après, c'est vrai, le peuple reconnaîtra que Socrate avait raison. Qu'on ne pouvait pas, vous voyez, violer sa propre constitution. Ou alors il fallait la changer, et que la loi aussi ne doit pas être rétroactive, évidemment. Alors, est-ce qu'il faut prendre la solution de Hobbes? Qu'est-ce que Hobbes pensait à ce propos? Lui, que à choisir entre un homme et une assemblée, il préférait un homme. Pourquoi? Parce que celui-ci prend plus vite des décisions. Alors qu'une assemblée, les gens ne sont jamais d'accord entre eux, et vous voyez que l'unité est beaucoup plus difficile à faire. La personnification, vous voyez, est difficile à faire, l'unité à faire. Alors, à tout prendre, effectivement, Jacques Rousseau dit que lui aussi préférerait finalement un homme dirigeant l'exécutif, un monarque, à condition que ça ne soit pas héréditaire, et que la personne soit élue. Et on le voit en particulier dans la constitution de Pologne. Rousseau s'est estimé, lui, pouvoir être, vous voyez, lui-même un législateur. Mais ça ne plaît pas tellement quand même à Rousseau, parce qu'il sait bien, et les exemples historiques sont nombreux, où le gouvernement, petit à petit, s'est emparé aussi du législatif. Évidemment, c'est lui qui va disposer de la force armée. Donc, que préfère finalement Rousseau? Un gouvernement aristocratique, les meilleurs, les gens compétents, à condition là aussi que ça ne soit pas héréditaire et qu'il soit élu. Élu et non, et la charge non héréditaire. C'est pas parce que le père est intelligent que le fils le sera. C'est peut-être une des raisons que l'Égypte, justement, qui voyait les hommes transmettre leur charge à leur fils, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Alors, l'art de gouverner les hommes rapidement, la politique, du bon sens, dit Rousseau avant tout, et de la simplicité. La preuve, regardez, les Suisses ont damné le pion au téméraire, ils l'ont même, vous rappelez, tué dans la dernière bataille qui a opposé le téméraire aux Suisses, alors que le téméraire avait des troupes nombreuses et tout ça, mais ces rudes campagnards ont finalement damné le pion au téméraire. Il faudra attendre Napoléon pour que la Suisse perde son indépendance, mais dès que Napoléon disparaît de la scène, les Suisses retrouvent leur indépendance. Donc, en politique, bon sens, simplicité. Mais aussi, il ne faut pas se désintéresser. Le désintérêt, dit Rousseau, est pire que tout. Regardez-nous, dernière élection, deuxième tour des législatives, qui est le tour important, qui va déterminer une majorité, 48%. C'est-à-dire qu'on est passé en dessous du seuil de la majorité. Les mœurs. Rapidement, vous avez compris que sur ce point, Rousseau est le disciple de Montesquieu. il faut être vertueux. Si on est corrompu, si on pense qu'à soi, si on fait des parties, ça aussi, vous voyez, c'est toujours la thèse de Rousseau de la solitude. Si on fait des parties, ça n'ira pas. D'abord, vous ne jugerez plus par vous-même, mais parce qu'on vous dira, votre partie vous dira de juger. Alors que pour Rousseau, c'est chacun des contractants qui doit réfléchir. Alors, on peut réfléchir et discuter entre nous, mais à chacun après. Pas de partie, dit Rousseau. L'économique, eh bien, effectivement, il faut éviter la pénurie, mais il faut éviter, effectivement, l'extrême richesse. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le plus riche va, avec son argent, pouvoir corrompre des magistrats et même, quelquefois, la plus haute tête de l'État. Alors, c'est pourquoi nous allons passer maintenant à l'égalité et à l'inégalité. Bon. Alors, tout d'abord, voyons les égalités et inégalités naturelles. Égalité biologique d'abord. En effet, pour Rousseau, un peu comme Hobbes, ce qui est le plus important, qui fait notre égalité, c'est l'égalité de l'espèce. Nous sommes tous, nous appartenons tous à finalement l'humanité. Et donc c'est ça qui fait notre égalité biologique, et en particulier, le plus important, notre finitude, c'est-à-dire le fait que nous soyons tous, nous sommes faibles, malades et surtout mortels, bien entendu. Bien entendu. Alors, pourquoi je vous ai mis Monsieur Vigoureux ? Parce que dans son dernier ouvrage, que je vous conseille, il est extraordinaire, et du point de vue philosophique, Vigoureux, rend raison à Descartes et à la science aussi, et à la technique. La grande thèse de M. Vigoureux dans le Veau d'Or, c'est celle-ci. Bien souvent, on accuse les philosophes, en particulier Descartes, Galilée, toute la science moderne, hein, en particulier à propos du climat et aussi les techniques, l'automobile. Mais finalement, dit M. Vigoureux, quel est le responsable principal ? C'est l'avidité, la cupidité humaine. C'est finalement vouloir à tout prix gagner de l'argent. Alors, on fait une belle entreprise, il y a beaucoup de gens qui travaillent, seulement qu'est-ce qu'on fait ? On lâche les gaz dans l'atmosphère et l'eau dans les rivières. Vous voyez ? Mais ça vient ni de la science, ni de la technique, ni de la philosophie, mais de la cupidité et de l'avidité humaine. Je vous recommande le Veau d'Or. Et puis surtout, il rend justice à Descartes. Il rend justice à Descartes. Bon. Voilà. L'égalité naturelle l'emporte sur l'inégalité naturelle. Alors, il ne faudrait pas croire que Rousseau, si vous voulez, comme Locke et Hobbes d'ailleurs sur ce point, nie qu'il y ait en nous des plus forts, des plus faibles, des plus intelligents et moins intelligents. Mais finalement, ça ne compte pas. C'est quelque chose, finalement, de secondaire, de médiocre. Ce qui l'emporte surtout, c'est l'égalité naturelle. Et donc, de ce fait, il y a une sorte de confrontation permanente en nous, du point de vue naturel, entre l'égalité et l'inégalité. Elles se confortent, elles s'opposent, et il y a donc une sorte de dialectique constante entre elles. Alors, nous allons voir que cette égalité et inégalité disparaissent pour Rousseau au moment crucial du contrat. À ce moment-là, il y a entre nous une égalité parfaite. Pourquoi ? Parce que la base ou le fondement, si vous voulez, du contrat social, c'est l'aliénation de tous nos droits, de tous nos biens, de toute notre personne à la communauté, et que de ce point de vue, vous en doutez, nous sommes tous sur le même plan, juridiquement, nous sommes tous égaux. Seulement, vous vous en doutez, est-ce que cela doit durer, et même surtout, est-ce que cela peut durer ? Ben non. Nous allons voir donc maintenant égalité et inégalité sociale et civile. Car ce moment du contrat, évidemment, il est très rapide, même s'il est essentiel, fondamental, il ne dure pas. Alors, la situation, voyons tout d'abord la situation de principe. Comme on l'a vu tout à l'heure, les contractants le font pour survivre, pour conserver leurs biens, etc. Et que tous sont sur le même plan. Donc il y a d'abord une égalité de principe complète. Nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a personne au-dessus des lois. Hein ? Normalement. Hein ? C'est bien dit le principe. Hein ? Tous égaux devant la loi. Et la loi est la même pour tous. Situation de fait. Ben vous voyez que vous avez qu'à regarder tous les états civils, y compris la démocratie, ben vous trouvez grand nombre d'inégalités. Pourquoi ? Ah ben d'abord parce que chacun veut être considéré. C'est ce que Hobbes appelait la gloire. Tant que nous vivions isolés les uns des autres, on ne pouvait pas se comparer. Mais vivant les uns à côté des autres, en face des autres, on se met à se regarder. Et puis, on voit que certains, sont plus beaux, donc on voudrait aussi, nous, être plus beaux. Et c'est finalement l'amour légitime de soi, survivre, qui est remplacé par l'amour propre. Je suis le plus fort, je suis la plus belle, je suis le plus intelligent, etc. Donc, vous voyez, c'est cette considération de soi, ce que Hegel appellerait la reconnaissance de soi, vous voyez, qui va entraîner ces inégalités. Car je veux être plus que les autres. Et je veux être regardé, considéré. Le désir sans limite. Tant qu'on était dans l'état de nature, il était facile, avec cette nature généreuse, providentielle, de se nourrir. Et on avait très peu de besoins. Hein, pas d'automobile, pas d'aviation, etc. Au contraire, avec l'état civil, nos désirs sont déjà différents des besoins fondamentaux, boire, manger, se reproduire, dormir aussi. Hein. Nous voulons des tas d'autres choses nouvelles. Et pourquoi s'arrêter ? Finalement, vous voyez qu'il n'y a plus aucune limite. Que veulent nos transhumanistes actuels ? Hein, le dernier état de ces idéologies, être beau et ne pas vieillir, vivre éternellement sur Terre. Là, il n'y a plus aucune limite. La mort même, disparaît. Bon, que ça soit possible, c'est une autre question. Mais vous voyez où on en est. Alors, le travail et la propriété, évidemment, accentuent aussi les inégalités. Il y en a qui travaillent plus vite, mieux. Il y en a qui inventent de nouvelles techniques et qui, de ce fait, récoltent, évidemment, plus d'argent. Alors, quelle est la solution de Rousseau ? C'est insérer de l'inégalité dans l'égalité. C'est-à-dire arriver à moduler finalement l'égalité pour qu'il y ait un certain nombre de différences. Par exemple, parce que j'ai été professeur et l'élève ne peuvent pas être sur le même niveau. Alors, on peut, les psychologues, nous faire croire que finalement, on peut faire inventer à l'élève tout. Non. Bien entendu que non. Moi-même, vous voyez, je ne connaissais pas Althusius, en lisant, je l'ai appris. Et partout, c'est pareil. Dans l'art militaire, vous en doutez, il ne faut pas que n'importe qui fasse n'importe quoi. Sinon, c'est la défaite assurée. Alors, premier point, pas d'égalité radicale. Rousseau, bien qu'il ait intitulé son dernier ouvrage « Les rêveries du promeneur solitaire », est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Il sait que les positions anarchistes, pas possible. Hein, plusieurs fois, il la critique dans le contrat. Donc, pas d'égalité radicale. Mais pas d'inégalité radicale non plus. Pas le droit, justement, d'avoir des esclaves, ou, si vous voulez, de traiter ses inférieurs comme des esclaves, plus bas que terre, voire en profiter, vous l'avez vu maintenant, sexuellement ou autre, hein, oui. Non. L'idée de modération. Il faut que, même quand il y a des inégalités, celui qui est au-dessus ne se permette pas, non seulement ne se permette pas n'importe quoi, mais puisse vivre aussi avec les autres. Regardez dans la Nouvelle Héloïse, il y a des maîtres et des serviteurs. Mais, vous voyez, tous ensemble, bah, par exemple, vont faire un pique-nique et tous admirent la splendeur de la nature. Alors, bien sûr, à chacun son rôle, il y en a qui vont mettre la table, d'autres qui vont commander. Mais ça reste, vous voyez, des inégalités modérées. Et modérées, eh bien, par aussi le fait de l'amour des autres. Mais surtout, fin et moyen, c'est que pour Rousseau, liberté et égalité ne sont pas sur le même plan. Seule la liberté est une fin, c'est-à-dire la fin suprême, la fin dernière. L'égalité n'est qu'un moyen pour conserver effectivement une certaine part de liberté. Donc, si vous voulez, l'égalité est de l'ordre du moyen, alors que la liberté est de l'ordre de la fin. Donc on s'est servi, vous voyez, de Jean-Jacques Rousseau pour faire croire qu'il avait une position égalitariste complète. Non, c'est pas vrai. Oui, on va arriver au dernier point. Alors, oh, ben ça va, j'ai 10 minutes. 10 minutes, ça va aller. La religion civile est-elle compatible avec la religion naturelle? Je vous ai dit que cet avant-dernier chapitre du contrat social, c'est l'avant-dernier du livre 4, Rousseau traite de la religion civile. Et quand on lit ce chapitre, on est stupéfié parce qu'on y voit une critique, en particulier du christianisme, mais assez forte, assez vive. Or, vous vous rappelez ce que je vous avais dit dans la métaphysique religieuse de Rousseau, le vicaire savoyard louait Jésus. Enfin, Jésus était non seulement le meilleur des hommes, mais même Dieu. C'est ce qui faisait la différence, vous vous rappelez, entre Socrate, le philosophe, et Jésus. Or là, la critique du christianisme n'est pas piquée des pâquerettes. Alors, est-ce que Rousseau a complètement changé, ou est-ce que, comme le pensent certains, il est incohérent comme d'habitude? Pas du tout. On va essayer de voir qu'il va s'efforcer de rendre compatibles les deux. Alors, c'est dans la lettre à Voltaire d'août 1756 qu'on peut voir les premiers essais de présentation du problème et des premiers efforts de conciliation. Cette lettre à Voltaire, vous rappelez, c'est sur le désastre de Lisbonne. Et le fameux poème que Voltaire avait fait à ce propos est critiqué très fortement la Providence. Alors évidemment, Rousseau n'est pas du tout d'accord avec cette critique de la Providence divine. Et d'autre part, vous voyez, ça c'est un premier point, d'autre part, Rousseau pensait toujours et avait commencé à bien écrire le contrat social, par ce fameux manuscrit de Genève. Mais justement, dans le manuscrit de Genève, il n'y a pas ce chapitre sur la religion civile. Et donc, le contrat social était écrit, entre autres, pour remédier aux insuffisances de la République de Venise. Aussi d'autres républiques, mais plus précisément celles qu'il avait connues, hein, puisque vous vous rappelez qu'il avait été à Venise. Et puis, il y a l'autre courant, qui vient de l'Émile, du livre 4 du livre 4 de l'Émile, La profession de foi du vicaire savoyard. Où, cette fois, qu'est-ce que pense Rousseau? Que finalement, la providence divine, même face à ce désastre, n'est pas contredite. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que il y a eu tant de morts, hein, 80 000 à peu près, hein, enfin, cet ordre de grandeur? C'est pas la faute de la providence divine. Dieu n'a jamais demandé aux hommes de se rassembler à cet endroit. Pourquoi ils se sont rassemblés? Par cupidité, par avidité. Et puis, coup de pied à Voltaire, à mon avis en particulier, Lisbonne faisait la traite, rappelez-vous, des Indiens et des Noirs. Donc, l'esclavage. Voltaire avait des intérêts dans la compagnie des Indes. Et cette compagnie des Indes, elle, pratiquait l'esclavage. Donc, vous voyez, Voltaire avait des bénéfices. Donc Voltaire comprend bien l'allusion. Mais en même temps, vous voyez, l'argumentation de Rousseau. Rien n'obligeait les hommes à être tout cela, comme c'est vrai aussi, regardez, les volcans. On sait que les volcans, de temps en temps, ben, ils se réveillent. Ben, il y a beaucoup de gens qui sont près des volcans parce que la Terre est plus riche, par exemple, etc. Vous voyez tout ce que Rousseau peut trouver. Et en plus, il montre que l'immortalité de l'âme n'est donc pas quelque chose de non raisonnable. Là, je pense qu'il a été aidé surtout par l'abbé de Condillac, hein, son autre ami, l'abbé de Condillac. Alors, y a-t-il compatibilité ? Il faut que je vous lise quand même le passage de la religion civile où Rousseau critique le christianisme, pour que vous voyez quand même le problème et comment essayer de le résoudre. Alors, c'est... Mais je me trompe en disant une république chrétienne. Chacun de ces deux mots exclut l'autre. Le christianisme ne prêche que servitude et dépendance. Son esprit est trop favorable à la tyrannie pour qu'elle n'en profite pas toujours. Les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves, ils le savent et ne s'en émeuvent guère. Cette courte vie a trop peu de prix à leurs yeux. Les troupes chrétiennes sont d'excellence, nous dit-on, je le nie, qu'on m'en montre de telles. C'est-à-dire que les troupes françaises ou italiennes, ce n'est pas des chrétiens. Un peu comme Kant dira plus tard, qu'il n'y a aucun homme qui agit par pur devoir. Rien ne nous dit que derrière ce qu'on appelle notre devoir, il n'y a pas des intérêts particuliers. Alors, vous voyez qu'à partir de ce texte, on peut se dire qu'on a d'un côté un Rousseau qui met en valeur le christianisme, dans la profession de foi du vicaire savoyard, fait l'éloge du christianisme et de Jésus, et là nous avons un Rousseau qui semble faire tout le contraire, en montrer l'incompatibilité. Et Althusser, un philosophe français, marxiste, qui était au Parti communiste, adhère à ce point de vue et enfonce un peu la pédale en faisant remarquer que Rousseau, à travers cette religion civile, eh bien, il fuit en quelque sorte dans l'idéologie. Pourquoi est-ce qu'il fuit dans l'idéologie religieuse et bourgeoise ? Pour masquer une réalité. Quelle est la réalité pour Althusser ? C'est que la bourgeoisie exploite le prolétariat, le domine, en tire tous ses profits. Mais Rousseau va nous raconter des choses sur la religion civile. Non, dit Althusser. Alors, comment répondre à Althusser ? Ben, d'abord, moi je ne crois pas qu'Althusser ait raison. Ce n'est pas de l'idéologie pour Rousseau. Pour Rousseau, c'est un phénomène anthropologique. L'homme n'est pas que raison. L'homme est raison, mais aussi cœur. L'homme est raison, mais aussi sentiment. Et de ce fait, justement, c'est au contraire bien comprendre l'homme que de vouloir que les deux interviennent, se mêlent la raison, le contrat social, et le cœur, la profession de foi du vicaire savoyard. Et Rousseau va poursuivre, toujours dans ce texte de la religion civile, et montrer, et on peut montrer, ces étapes de la conciliation. D'abord, Rousseau souligne que l'État n'a aucune compétence théologique. Ça veut dire que l'État ne peut pas dire, par exemple, si le péché originel est valable ou si c'est une élucubration de théologien. L'État n'a aucune compétence. La seule compétence de l'État, c'est de trouver, et vous allez voir, il va le faire, deux codes moraux, deux éléments d'un catéchisme civil. Quels sont ces deux éléments, ces deux dogmes, si vous voulez, qu'il faut pour faire de bons citoyens? La croyance en un Dieu parfait et l'immortalité de l'âme. Voilà ce que doit faire l'État civil, et ce qu'il il ne doit pas faire, c'est d'aller au-delà. Mais, vous voyez, la conséquence, ça va être aussi que l'athéisme est condamné par Rousseau, et même qu'on doit exécuter les athées, qui ne peuvent qu'être que de mauvais citoyens, des hypocrites. D'un autre côté, aucune révélation. Aucune révélation, pourquoi ? Vous vous rappelez que le Jésus, d'ailleurs, du vicaire savoyard, était avant tout quelque chose qui venait du cœur, en voyant comment il a vécu, ce qu'il a fait, plus qu'une série de raisonnements, de preuves, si vous voulez, de l'existence de Dieu. Donc, aucune révélation. Pourquoi ? Parce que vous voyez que le contrat social, c'est vrai, est plus valable pour les petits pays, les villes, etc. Mais en fait, il a aussi une portée universelle. Il peut, en s'améliorant ou en se modifiant avec les commissaires, si vous voulez, et non des représentants, des référendums, vous voyez, améliorer la représentation. Et surtout, je pense que Rousseau, ce qu'il ne voulait pas, c'est que le christianisme devienne une église nationale, qui lui ferait perdre son universalité, sa spiritualité. Alors, objection décisive, ah oui, mais quand même, quand Rousseau nous dit que les chrétiens sont faits pour être esclaves, les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves, et qu'il n'y a jamais eu de troupe chrétienne, parce qu'une troupe chrétienne use de violence, alors que la religion du Christ est non violente. Bah, alors, comment Rousseau va s'en tirer? D'abord par une laïcisation radicale de l'État. L'État ne s'occupe que de deux choses, la croyance en Dieu et en l'immortalité de l'âme. Point final. Pour le reste, il ne s'en occupe pas. Il ne s'occupe pas de savoir si on fera notre salut ou pas, si on ira au ciel ou en enfer. Ça, c'est pas du domaine de l'État. L'État, et Rousseau n'a pas de mal, évidemment, à dire, premier laïc, ben c'est le Christ. Rendez, rappelez-vous, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, il y a une dernière objection qui est plus embêtante, c'est celle qu'on trouve dans la lettre à Christophe de Beaumont. Rousseau parle d'inspection. Inspection de qui ? Des citoyens. Oh là là, vous voyez ce qu'on dit ? Ça, c'est de l'inquisition. Hein, c'est un autre nom, une inquisition déguisée. Alors, pour bien comprendre ce que veut dire Rousseau, il faut voir deux points, à mon avis. D'abord, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après le texte et ce qu'il y a avant. Qu'est-ce qu'il y a après le texte ? Les magistrats ne doivent s'occuper que, nous l'avons vu, des deux dogmes et de rien d'autre. Avant, comme Molière, finalement, Rousseau fait une attaque très violente des faux dévots, des tartuffes, des hypocrites. Donc, vous voyez, il faut replacer dans cette inspection, si vous voulez, par les magistrats des citoyens, dans cette... oui, dans le texte. D'accord. Bon, oui, je commence à être un peu fatigué. Dans le contexte. Merci. Dans le contexte. Donc, il admet aussi, dans la sixième lettre de la montagne, que les magistrats eux-mêmes peuvent être inspectés. C'est-à-dire, personne, au fond, n'échappe à l'inspection. Et c'est aussi visible dans les derniers chapitres du livre 4, sur ce qu'il appelle le tribunat. À Rome, c'était une institution où les tribuns du peuple pouvait empêcher certaines lois d'être exécutées. Mais en fait, maintenant, vous voyez ce qu'on a. La tribune de Genève est un journal. Ce sont les journaux, vous voyez, qui, finalement, inspectent, bah oui, les citoyens. Et en particulier, les citoyens qui se trouvent un peu au-dessus des autres et qui auraient tendance à profiter de leur situation. Hein, la tribune de Genève, tribunat. En d'autres termes, le quatrième pouvoir. Ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, le pouvoir de la presse. Et puis, regardez, Rousseau, c'est vrai, n'est pas choqué par la délation. Mais ça existe encore chez nous. Vous pouvez très bien voir quels sont les impôts payés par vos voisins et éventuellement bah, les dénoncer ou pas hein, à l'État. L'État que nous croyons être démocratique, le nôtre, admet bien d'une certaine façon la délation. Alors évidemment, la délation est toujours sujette à caution, parce que, en particulier quand le prince est prisonnier, quand c'est l'adversaire qui est chez nous, La délation n'est peut-être plus du tout valable, hein, mais ça s'appelle de la collaboration. Voilà. Alors, pour terminer, c'est bien, je crois, ce contrat social qui est la charte de toute démocratie digne de ce nom et valable. Et qu'à mon avis, on n'a pas fait mieux. Même, à mon avis, Hegel, qu'on a un peu trop aussi malmené. Hein, Hegel ne fait pas mieux, il prend d'une certaine façon les points essentiels à Descartes et il n'accorde ni à l'État une valeur totale, ni à non plus évidemment à l'individu une valeur totale. Il essaie de compenser l'un par l'autre. Rousseau est aussi donc, nous l'avons vu, le père du romantisme, le père des écologistes modernes, par sa critique dans le premier discours du luxe, des... du progrès technique. Enfin, surtout sur le plan philosophique, non seulement donc il a influencé Hegel, mais Kant et bien de nos, des successeurs philosophiques. Hein, c'est un des plus grands génies que nous ayons. Je vous remercie. Allez, il n'y a pas de mauvaise question. Il ne faut pas écouter M. Fournier. Il n'y a pas de mauvaise question. Hein. Mais vous pouvez aussi partir, hein, si l'heure vous presse. Que je précise, ou n'importe quelle question. Ou critique sur Jean-Jacques, hein, j'aime bien les critiques, oui, Jean-Paul.
Qu'est-ce que Jean-Jacques Rousseau pensait ou aurait pensé